Merci. Donc ça sera le psaume 93. Après des textes du Nouveau Testament, donc autour de la vie de Jésus, je vous rapporte à des textes de l'histoire d'Israël qui portent l'espérance qui sera concrétisée dans le Nouveau Testament. L'Éternel règne. Il est vêtu de majesté. Il est revêtu et ceint de puissance. C'est pourquoi le monde est fermement établi. Il ne vacille pas. Dès l'origine, ton trône est ferme. Oui, tu existes depuis toujours. Ô Éternel, les fleuves font entendre, ou les grandes eaux, les mers, les fleuves font entendre, leur grand bruit, les fleuves font entendre leur grondement. Plus que le bruit des grandes eaux, plus puissant que les flots des mers, l'Éternel est puissant dans les hauteurs. Tes stipulations sont tout à fait sûres, la sainteté caractérise ta demeure, ô Éternel, pour tous les temps. Juste un mot en lisant ce psaume, je revois les randonnées qu'on a faites le mois dernier avec certaines cascades, avec le bruit des cascades et puis le sentiment, si là tu te rates en traversant, là tu vas loin, il y a une force d'eau qui est là. Voilà, j'ai pensé à ça en lisant le texte. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait on peut voir ici un espèce de cérémonial, et je dirais que de la partie la plus ancienne de la Bible, ce texte en fait partie, jusqu'à nos jours, les cérémoniales ont des ressemblances. C'est cette fin de journée, par exemple, qui arrive tous les, je ne sais plus combien d'années, j'ai honte à moi, où on entend Macron est président, Hollande est président, et puis c'est préfiguré de la même façon, hein, vous voyez, il y en a un gros, il y en a un petit à chaque fois, hein, qui rétrécit. Et dans l'Ancien Testament, on a aussi des choses de cet ordre, qui sont des annonces de la royauté. Quand vous entendrez le son de la trompette, dites « Absalom règne » à Hébron. Et un peu plus loin, pour un autre roi, ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu règne ». Donc c'était une espèce de communiqué spécial. Hein. Absalom règne, Jéhu règne, une proclamation, et c'est bien ce qu'on voit dans ce psaume. L'Éternel règne. Yahweh, Adonai, règne. Voici ce que chante ce psaume. Voici celui qu'il chante. Voici la confession de foi de l'ancien Israël, 1000 ans avant Jésus-Christ. Et elle est faite au rythme de la poésie, au rythme des répétitions qui sont propres à la poésie hébraïque. Il est vêtu de majesté, il est revêtu. Les fleuves font entendre leur grand bruit. Les fleuves font entendre leur grondement. Enlaçant, engageant des mots qui disent ou qui tentent de dire finalement quelqu'un qui est incommensurable. En français, plus clair, ça veut dire quelqu'un qui est impossible de mesurer, qui est impossible de circonscrire, qui est impossible de contenir, et on est obligé, conduit à le dire avec les termes de notre langage qui sont peut-être bien pâles. Et vous voyez qu'il y a des questions de vêtements. Je ne vais pas dire il n'est pas question de prêt-à-porter, mais question de vêtements. Il est question de trône. Mais comment parler de lui autrement? Et en même temps, et j'entends ce que l'un ou l'une ou l'autre disait en début de culte, n'est-ce pas quand même un paradoxe que de chanter cela? Et certains diront, et on peut les entendre, que c'est même une absurdité. N'est-ce pas déjà un paradoxe de chanter cela à l'époque de l'ancien Israël, au moment où le texte a été composé et repris? N'est-ce pas un paradoxe de chanter cela parmi la foule des autres puissances de l'époque et des candidats à la puissance? Baal règne. Astarté règne. Et chaque peuple y allait de son Dieu. Il y avait beaucoup de petits peuples. Chaque peuple y allait de son Dieu. Et Israël, c'était un petit peuple, sur un tout petit pays. Un pays dont, au fil des ans, d'ailleurs, les frontières se sont... L'étendue du pouvoir s'est vue rétrécie, élimée, réduite à pas grand-chose, diminuée. Déjà, le peuple était fragilisé par la fracture interne. Donc, c'était un peuple de 12 tribus, voilà, qui a quitté l'Égypte. Donc, mais qui s'est coupé en deux. Il y a une fracture interne, déjà, qui la fragilise. Deux royaumes, le royaume de Samarie, de Jérusalem, deux royaumes attachés au même Dieu, a priori, mais qui se cassent. Et puis ce sont, voilà, c'est les deux royaumes, j'ai pas trouvé en français, mais voilà. Alors, deux tribus en bas, et puis les autres en haut. Voilà. Deux petits peuples, ou un petit peuple, qui en plus est sur un petit pays devant des empires qui eux sont en extension. Voici l'étendue de l'empire babylonien, par exemple, au fil du temps. Donc, extension des empires assyriens, babyloniens, égyptiens, dont les armées sont pas, c'est pas des armées de petits groupes, hein, c'est des grandes armées, engagées des razzias petit à petit sur toutes leurs frontières, qui perçaient ces frontières, qui sont allées jusqu'au mur de Samarie, le royaume, l'un des deux royaumes, et jusqu'au mur de Jérusalem. Et quand le peuple, enfin, on était assiégé, quoi, c'est le château fort de l'époque. Alors, l'Éternel règne. Mais en quoi l'Éternel règne-t-il devant ces grandes puissances, si déterminées, si efficaces, si redoutables? Marduk, le dieu de Babylone, Marduk règne, lui, oui, parce qu'on voit, il gagne. Marduk. Et on peut l'entendre, un des légats du roi d'Assyrie se présente devant Jérusalem assiégée et qu'il dit en hébreu, donc il parle de manière à ce que tout le monde le comprenne, donc tout le monde est sur la muraille là, et donc il parle, enfin en hébreu ou en araméen, je sais plus, enfin ils comprennent la langue, et il dit: mais quels sont d'entre tous les dieux des pays ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Où ils sont ces dieux-là? Il n'y en a pas? Pour que Adonai, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Donc quel serait ce Dieu d'un petit peuple, sinon un petit Dieu? Donc comment prétend-il au règne sur le monde? Et plus encore, dans le psaume, il prétend à garantir la stabilité du monde. Rien que ça. Et si vous avez une idée du contenu de la première partie de la Bible, vous savez qu'avec le temps qui va passer, la surenchère va être d'autant plus possible. N'est-ce pas encore un plus grand paradoxe de chanter l'Éternel, de chanter Adonai et son règne, quand son peuple se trouve dispersé, maintenant emporté en exil, à l'étranger, dispersé aux quatre coins de la Syrie, de la Mésopotamie, semé à l'Orient, en Assyrie, en pays étranger, et qu'on leur dira: mais allez, chantez-nous un cantique de chez vous. Et puis, bon, là, on sait que le peuple reviendra de l'exil. N'est-ce pas un paradoxe quand même de continuer à chanter cela au retour de l'exil, au retour d'un petit nombre, finalement, un petit nombre qui va être pris dans les embrouilles politiques de l'époque, dans les jeux d'influence de l'époque, qui succombera, comme tout l'Orient de cette époque, jusqu'à l'Inde, à la conquête éclair d'Alexandre le Grand, au IVe siècle ou IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui soumet à sa botte tous les royaumes situés entre la Macédoine, la Grèce, et l'Inde. L'Éternel règne. Est-ce que ce n'est pas paradoxal aussi de chanter cela à l'époque du Nouveau Testament, au passage de notre ère? Une grosse partie du peuple qui chante ce psaume à l'époque, elle vit, elle aussi, exilée à l'étranger, aux quatre coins de l'horizon, dans le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, c'est le cas de le dire pour eux. Et il a beau se réunir au nom de l'Éternel à Jérusalem trois fois par an, c'est Rome qui à l'époque donne le rythme. Et partout on craint l'armée romaine. Elle occupe la Palestine depuis 50 ans au moins. Et puis on sait que les autorités juives de l'époque ne sont que des pions entre les mains de la grande puissance militaire, de la puissance romaine, la puissance des légions romaines qui ont pacifié l'Empire. C'est la Pax Romana, la paix romaine. Ils ont pacifié l'Empire. Comprenez qu'ils ont imposé par les armes, par le fer, par le feu, par le sang, le règne de Rome. C'est un bas-relief qui doit être au Louvre, je crois. Mais bon, voilà les Romains, et puis voilà au-dessous ceux qu'on a, à qui on a fait sentir la force romaine. Et c'est bien à Jérusalem, pour le peuple juif, le religieux est bien sous l'emprise du politique, et le roi de Jérusalem, bien, c'est un fantoche. Et les rebelles, on le sait à cette époque, si vous avez eu Spartacus, par exemple, voilà, les rebelles sont réduits ou bien à l'esclavage, ou bien à la crucifixion. Et on a beau dire que ce qu'on voudra, mais c'est César qui fait la loi. L'Éternel, maître du monde, César est Seigneur. Alors, j'en remets encore une couche, si je peux employer ce langage. A fortiori, quand émanent de ce petit peuple, quelques illuminés, là, qui se mettent à dire d'un de ceux qu'on a écrasés, d'un de ceux qu'on a crucifiés, que c'est lui, Jésus, qui est Seigneur. Alors là, le paradoxe paraît à son comble, sans même parler du fait que ce petit groupe, d'ailleurs, il n'est pas du tout suivi, c'est un petit groupe parmi l'ensemble du peuple juif. L'Éternel règne, Jésus est Seigneur. Mais pour ne donner qu'un exemple, à l'époque, on voit aussi dans le Nouveau Testament, qu'à Éphèse, on n'entendait pas de cette oreille. Grande est la Diane des Éphésiens. Jésus. Alors aujourd'hui, on est arrivé quand même aujourd'hui, 2021 ans après, en France ou ailleurs, au jour où en France, en tout cas, la religion semble passer de mode, en tout cas, elle a perdu de sa prise sur la participation collective, qu'elle semble avoir disparu du croyable disponible, qu'elle semble discréditée, souvent perçue même comme un facteur de division, et un objet aussi, ça c'est le cas, elle est l'objet aussi de décisions gouvernementales, qui peuvent être d'ordre sanitaire ou qui peuvent être d'un autre ordre aussi. Quand aujourd'hui le monde semble sous l'empire de puissances qui pèsent de tout leur poids dans notre vie, dans notre manière de vivre, de respirer, de consommer, parce que c'est pas simplement quelque chose qui nous donne une contrainte. Consommer, ça donne du plaisir, mais c'est bien une manière de vivre qui nous est communiquée et transmise. Quand ce monde pèse dans tout son poids dans notre manière de désirer, qu'il s'agisse de puissance économique, qu'il s'agisse de puissance politique, de puissance militaire, technologique, et qu'elle pèse au point même de sembler menacer la stabilité même dont le psaume de la terre, stabilité dont le psaume dit que l'Éternel est le garant. Dire ce que dit le psaume à l'heure du réchauffement climatique, à l'heure où on craint une montée des océans, un changement de la, ce qui voudrait dire un changement de la configuration du monde. Mais peut-on dire que Yahweh est au-dessus de tout ça? Peut-on parler aujourd'hui de stabilité du monde quand on mesure ce que l'homme est capable d'en faire? Et c'est bien plutôt à cet homme et à sa puissance qu'on serait tenté de dire ce qu'on voit aussi dans le Nouveau Testament quand un des rois prend la parole et le peuple s'écrie « parole d'un dieu et non pas d'un homme ». Alors, j'ai pas de réponse. Enfin, j'ai pas de réponse. Mais j'ai envie de dire « et pourtant ». Je continue la ligne du paradoxe. « Et pourtant ». Et pourtant, ce psaume, il reste l'objet de confiance. Il reste confession de foi aujourd'hui. Entendu. On lit encore la Bible aujourd'hui. certaines personnes au moins la lisent, un bon nombre de personnes la lisent. C'est le livre le plus lu dans le monde, le plus acheté en tout cas. Et au fil de l'histoire, voyez le poids que la Bible a eu. On a oublié dans notre société un peu des christianisés, mais la marque de la foi chrétienne, la marque de la Bible, elle a imprégné toute notre histoire jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle et encore après. Ce psaume reste aujourd'hui encore un objet de confiance. Ce qui est dit dans ce psaume, c'est encore dit, c'est encore entendu, validé, c'est encore chanté. Et nous l'avons fait en première partie. Ce psaume reste un objet de confiance pour des êtres humains qui ne règnent pas. L'Éternel règne, ben nous on règne pas très longtemps, dont les vêtements s'abîment, sont volés. Jésus disait, mais voilà, ils peuvent être abîmés par la teigne, vos richesses peuvent être abîmées par la teigne, par la rouille. Des êtres humains dont la puissance, dont les ambitions restent à la merci d'un microbe, d'un virus, d'une maladie. Pour les randonneurs, d'un faux pas en montagne. Mais vous n'avez pas besoin d'aller en montagne, puisque ceux qui se souviennent, en tout cas pour moi, de mon histoire, savent que c'était quoi une entorse en sortant de l'étude biblique. Tenez-vous bien. Nous ne sommes pas vêtus de majesté. Nos symboles d'honneur ne brillent, n'en imposent que pour un temps. Et dont la gloire, s'il y a des personnes assez folles pour nous en attribuer, mais n'est-ce pas ce qu'on fait des vedettes de foot, de chant et autres. La gloire disparaît. Nous ne sommes pas fermement établis, nous vacillons, nos trônes sont fragiles. Qu'il s'agisse des trônes que nous occupons dans nos entreprises, notre fauteuil où nous nous asseyons pour diriger tous les sous-fifres qui sont autour de nous, je caricature peut-être, ou peut-être pas. Qu'il s'agisse de notre fauteuil, de notre chair, la chair du prédicateur, du bureau que nous occupons, de la chaise dans laquelle nous trônons dans notre appartement pour gouverner les personnes qui sont autour de nous, plus ou moins. Nos édifices s'effritent, disparaissent, et à l'échelle de l'histoire, on passe bien vite. Et même en milieu chrétien, où nous chantons très fort « À nous la force, à nous la joie du Seigneur, à nous la puissance », même si c'est par son bras puissant, il y a des espèces de fascination pour la puissance dans notre monde évangélique, même en chantant tout ça, ça ne changera pas beaucoup les choses, notre nudité, elle demeure. Donc, et pourtant, ce psaume reste objet de confiance de personnes comme vous et moi, c'est-à-dire des personnes fragiles, vulnérables. Et pourtant, ce psaume reste chanté. Baal, dont j'ai montré une image, Baal a disparu. Pour le voir maintenant, pour le vénérer, si vous vouliez vénérer Baal, mais il faut aller au Louvre, ou ailleurs. Marduk a disparu. La toute-puissance romaine a disparu. Et c'est paradoxal, parce que la confession de foi de ce psaume, eh bien, sa proclamation, elle reste vivante, et dans le peuple juif, et dans le peuple chrétien. Ce crucifié périphérique, la foi en lui a gagné le monde, a gagné l'histoire. Elle a influencé l'histoire humaine comme, je crois, à une ampleur qu'aucune autre foi n'a eue, et d'une manière complètement imprévisible. La proclamation « Jésus est Seigneur » reste d'actualité pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui l'ont rencontré encore aujourd'hui. Et c'est le cas de beaucoup, la plupart sans doute d'entre nous. Et au-delà, en plus, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au-delà même, et indépendamment de nos émotions, de nos histoires personnelles, et de ce que nous aurions envie de croire, juste parce qu'il vaut mieux croire quelque chose plutôt que rien, cette foi, elle s'appuie, elle se nourrit sur la confession de foi de ceux qui ont vu Jésus à l'œuvre dans leur histoire à eux. Au milieu d'une tempête, par exemple, le texte qu'on a lu au tout début du culte. Au milieu d'une tempête, quand les fleuves, quand les grandes eaux font entendre leur voix, le volume de sa voix à lui venait couvrir celui des éléments qui battaient le lac et qui mettaient le bateau en péril. Et la tempête s'est arrêtée. Et les pompes funèbres ont eu beau sceller la pierre et veiller à ce qu'on ne la profane pas, à ce que personne n'essaie de faire sortir le cadavre pour faire croire que, eh bien, le problème c'est que ça s'est ouvert de l'intérieur et que par-dessus vent et marée, par-dessus tout ce qui fait chanceler ce monde, eh bien, en est sorti et s'est montré cet homme, ce roi qui ose dire, qui prétend dire, comme nous l'avons lu, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain. Dieu passe ce monde, le Christ passe ce monde. Ce qui me rapporte à une des phrases du psaume, tes stipulations sont tout à fait sûres, c'est le mot sûr. C'est en fait un adjectif qui est associé au mot hébreu qu'on connaît en français, Amen. C'est-à-dire, il en est ainsi. Et c'est plus que ça, c'est la fermeté, c'est quelque chose qui est stable, qui est solide, qui est affermi. Stabilité, fiabilité, solidité. Ceux qui ont vu Jésus osent à dire à ceux qui sont autour d'eux, au risque de leur vie, mais il faut être fou pour s'ils l'ont pas vu, mais pourquoi ils vont faire ça, quoi? Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et depuis le début de son histoire, j'ai envie de dire, le paradoxe, alors j'ai parlé de paradoxe, mais peut-être il faut mieux parler de tension, et peut-être là, en fait, dans le fait que le peuple chrétien reste marqué par cette réalité d'un inaccompli. Que ton règne vienne, nous invite à prier Jésus, et par la certitude, en même temps, d'un tout pouvoir m'a été donné. Et nous sommes avec ces deux choses. La scène que nous partageons, que nous allons partager maintenant, nous aide à faire mémoire, et je voudrais terminer par là, de la façon dont ce règne s'est établi. De la façon dont cette puissance s'est déployée. Le moment que nous vivons maintenant, c'est en fait le moment où nous faisons mémoire de la mort de Jésus sur la croix. La puissance de Dieu se voit ici, sur la croix. Et là, c'est pas pour des personnes qui sont extérieures à la foi. Eh bien, c'est de l'ordre de la folie. C'est une folie, dit un des premiers textes chrétiens, aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est là la puissance même de Dieu. Je vous invite à en faire mémoire maintenant. Donc, je rappelle.